l'esprit public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour cette nouvelle édition de l'Esprit public, au cours de laquelle nous nous efforcerons d'éclairer certains éléments de l'actualité de la semaine écoulée avec François Bujon de l'Étang, ambassadeur de France, Nicole Niesotto, professeur titulaire de la chaire sur l'Union européenne au Conservatoire national des arts et métiers, et Thierry Pech, directeur général de la Fondation Terra Nova. Avant d'aborder la composition du nouveau gouvernement et ses conséquences, pour répondre aux questions que nombre d'entre vous ont posé, je vous indique que la dernière émission de la saison en direct et en public aura lieu le dimanche 25 juin. Dernière émission en direct et en public le 25 juin, et vous pouvez déjà vous inscrire sur le site www.maisondelaradiosansséparation.fr. Intéressons-nous maintenant donc à la composition du nouveau gouvernement. Le 15 mai, Emmanuel Macron a nommé Premier ministre le député maire du Havre et membre des Républicains Édouard Philippe. Sur la proposition du nouveau Premier ministre, le président a nommé mercredi 18 ministres et 4 secrétaires d'État, choisis dans les partis politiques de gauche comme de droite et dans la société civile. Il forme le gouvernement le plus paritaire et l'un des plus resserrés de la Ve République. Au ministère de l'Intérieur, le sénateur Gérard Collomb, maire socialiste de Lyon et soutien de la première heure du leader d'En Marche. Au ministère de la Justice, François Bayrou. À Bercy, le député Les Républicains Bruno Le Maire, ancien ministre de Nicolas Sarkozy. Les directeurs généraux de l'ESSEC et de Business France, Jean-Michel Blanquer et Muriel Pénicaud, se voient confier l'éducation nationale et le travail. Le socialiste Jean-Yves Le Drian occupe un ministère dont l'intitulé met l'Europe avant les affaires étrangères. Enfin, après avoir refusé les propositions de Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy et François Hollande, Nicolas Hulot accepte le portefeuille de la transition écologique et solidaire. Le premier Conseil des ministres s'est tenu jeudi matin. Selon le porte-parole du gouvernement, Christophe Castaner, le chef de l'État a fixé plusieurs priorités, dont la réforme du travail, la préparation budgétaire et la loi de moralisation de la vie publique. Il a également appelé les ministres à soutenir les candidats de La République En Marche pour les législatives qui auront lieu les 11 et 18 juin. La nomination du Premier ministre et la composition du gouvernement ont suscité de nombreuses réactions dans l'opposition, en particulier dans le camp des Républicains. Dès lundi, des ténors du parti, tels François Baroin ou Christian Jacob, ont qualifié de débauchage et de prise d'otage ou d'aventure individuelle l'investiture de l'ancien bras droit d'Alain Juppé, Édouard Philippe. La droite, déjà fortement affaiblie par la campagne présidentielle de son candidat François Fillon, redoute une fracturation entre son aile modérée et son aile dure. Et alors qu'une centaine d'élus, LR et UDI, ont jugé que leur famille politique devait, je cite, « répondre à la main tendue par Emmanuel Macron », les 577 candidats de la droite investis pour les législatives ont appelé mardi au rassemblement autour du projet politique de la droite et du centre durant la campagne. Sur cette question, Nicole Niesotto.
Alors, ce qu'on peut dire de ce gouvernement, la première chose, c'est qu'il plaît aux Français et il déplaît aux appareils politiques. Il plaît aux Français. Un sondage paru il y a quelques jours montre que plus de 65% des Français sont satisfaits de ce gouvernement et que 65% trouvent que c'est un renouvellement, effectivement, de la classe politique. En revanche, dans les partis, eh bien, on critique vertement. À gauche, on trouve que c'est un gouvernement de droite et à droite, on trouve que c'est un gouvernement de traître. Et dans les deux cas, il y a une opposition qui se manifeste face à ce gouvernement. Deuxièmement, je crois que c'est un gouvernement de bouclier. L'objectif de ce gouvernement, c'est effectivement, bien sûr, de gagner les législatives, mais comme la victoire ne semble pas faire de doute, c'est d'empêcher ensuite l'obstruction au Parlement. Et je crois que c'est très habile. Quand on voit, par exemple, Madame Pénicaud au travail, nommer au travail quelqu'un qui fut conseiller de Martine Aubry pendant l'invention des 35 heures, ça coupe l'herbe sous le pied de toute l'opposition de gauche qui pourrait remettre en cause les modifications qui sera faites sur la loi du travail. De même pour l'écologie, on a tellement reproché à M. Macron d'ignorer complètement les problèmes environnementaux, de nommer Nicolas Hulot ministre de l'écologie, là aussi ça coupe l'herbe sous le pied d'un certain nombre d'oppositions, même si la nomination de Nicolas Hulot a fait chuter fortement l'action EDF, il y a aussi là une espèce de bouclier contre les oppositions futures. Et pareil sur l'Europe, qui est une des grandes priorités de notre président de la République, nommer Jean-Yves Le Drian ministre de l'Europe et des Affaires étrangères permet de nommer une espèce de sage. Jean-Yves Le Drian est devenu un peu en masculin ce qu'est Simone Veil pour l'ensemble des Français, c'est-à-dire le sage politique par excellence. Je trouve que ça redonne à l'Europe une crédibilité qui est simplement issue de la crédibilité personnelle de Jean-Yves Le Drian. Donc tout ça est très habile et ça m'amène à m'interroger sur le pari d'Emmanuel Macron. Je crois que son pari, c'est de remplacer la République des partis par la République des meilleurs. Alors, je dis ceci avec un certain éloge, même si je vais montrer dans un instant que c'est un pari très risqué. Mais quand même, je crois que c'est un peu cela. Alors, ça va bien au-delà du cassage de la droite, dont on l'accuse et défile sur tous les plateaux télé un certain nombre de responsabilités de personnalités politiques qui l'accusent de vouloir casser la droite. Pas du tout. Je crois que l'objectif n'est pas de casser la droite. La droite, elle s'est cassée toute seule pendant la campagne électorale, avec la primaire, avec les affaires de François Fillon, de même qu'il ne s'agit pas pour lui de siphonner la gauche. La gauche s'est aplatie toute seule avec, depuis des années, l'écart extraordinaire, la dérive bureaucratique extraordinaire du Parti Socialiste. Donc je crois que ce n'est pas ça du tout. Emmanuel Macron a ramassé les morceaux de cette cassure, de cette recomposition du paysage politique, qu'il avait d'ailleurs tellement bien prévu il y a un an que c'est cela qui a motivé sa candidature. Mais je crois qu'il a vraiment l'intention de faire une république des meilleurs, un peu une république à l'athénienne, de prendre ce qu'il y a de mieux dans chacune des familles politiques. Alors, c'est forcément très louable, moi j'applaudis de toutes mes mains, mais il y a quand même un certain nombre de risques induits dans la façon donc de conduire la politique. Le premier risque, c'est bien sûr que les législatives ne sont pas gagnées. Et quand on regarde les mêmes sondages, on s'aperçoit que même si les Français trouvent très bien aujourd'hui la composition de ce gouvernement, et en particulier la nomination d'un Premier ministre venu des Républicains, on a quand même 23% qui souhaitent uniquement 23% qui souhaitent que République en marche ait la majorité absolue, 39% souhaitent une cohabitation et 37% souhaitent une majorité relative qui l'obligerait à gouverner soit en centre-gauche, soit en centre-droit. Donc on a quand même, de la part de l'opinion française, qui en plus n'a pas toute voté pour Emmanuel Macron, on a quand même l'idée que cette République des meilleurs doit quand même être contrôlée par le jeu justement traditionnel des partis au Parlement. Deuxièmement, je crois qu'en gouvernant au centre politique élargi, au centre des meilleurs, il crée le risque de mettre l'opposition, de reporter l'opposition aux extrêmes. Et la France insoumise, comme le Front national, risquent de se retrouver au Parlement comme les tenants de la véritable opposition au gouvernement de M. Macron. Et ça, même si ça peut être tactiquement utile, je crois que c'est pas forcément une bonne idée pour l'avenir de la stabilité politique française. Troisième risque, c'est que dans cette cohabitation avant l'heure, dans cette cohabitation avant élection, bien les meilleurs ne seront pas forcément les plus malléables. Et on voit déjà sur l'environnement, entre Bruno Le Maire à l'économie, entre Nicolas Hulot au nucléaire et entre Édouard Philippe en Premier ministre, la synthèse sera difficile, ce qui mettra Emmanuel Macron en position de super Premier ministre. C'est lui qui va arbitrer. Dernier risque enfin, c'est la rue. La rue, les syndicats ont déjà annoncé qu'ils maintiendraient l'opposition traditionnelle. Autrement dit, je trouve que ce gouvernement est extrêmement habile, extrêmement porteur, et que, encore une fois, le pari de remplacer la République des partis par la République des bons dans chaque parti, je crois que c'est un pari louable, mais il induit quand même un certain nombre de risques pour l'avenir de la démocratie.
François Bugeon de l'État.
Bon, je crois qu'il faut être très prudent parce que nous sommes vraiment dans une phase qui est doublement transitoire, si j'ose dire. D'abord, nous en sommes au premier pas d'un nouveau président qui a été bien élu, en effet, contre Marine Le Pen, bien élu au deuxième tour. Un président néophyte de 39 ans qui n'a pas de passé parlementaire qui a un passé politique très bref et un parcours très court. Alors, l'homme est doué, il est doué pour l'exercice du pouvoir, la chose est certaine, mais il faut quand même tenir compte du fait que nous sommes là dans ses tout premiers pas politiques. La deuxième raison pour laquelle c'est une phase très transitoire, c'est que c'est un gouvernement d'avant les élections législatives. Donc c'est un gouvernement qui est par essence transitoire et qui est destiné à gagner pour le président de la République des élections législatives qui sont encore aujourd'hui très, très incertaines, enfin très nébuleuses, disons, puisqu'on n'en voit pas véritablement le profil, c'est ce qui sait. Alors, ce sont ces élections législatives qui, en réalité, vont déterminer la physionomie de l'ère nouvelle qu'ouvre l'élection d'Emmanuel Macron à la présidence de la République. Car l'une des caractéristiques de cette ère nouvelle d'un président qui n'est pas issu d'un des partis de gouvernement traditionnels, mais qui veut faire une autre politique et qui veut adopter une autre façon de faire de la politique, c'est d'être un président sans majorité. Il faut donc qu'il se la constitue. Soit ce sera la sienne si c'est En Marche qui emporte la majorité, soit ce sera une coalition si En Marche ne dispose que d'une minorité et a besoin d'un partenaire pour gouverner. Donc, il y a une incertitude absolument considérable sur ce que sera le véritable gouvernement du président Macron après le 18 juin. Et le gouvernement actuel est composé en effet avec habileté pour essayer de mener à la victoire ce qui est la République en marche, c'est-à-dire le groupement formé par Monsieur Macron. De toute façon, nous allons avoir quelque chose de complètement nouveau issu des élections législatives. Il y aura un renouvellement considérable du personnel politique et nous verrons exactement ce que seront les limites à l'éclatement des partis traditionnels. Il est acquis, il est tenu pour acquis que les partis traditionnels sont en train d'éclater ou de s'émietter ou de se fragmenter. Mais dans quelle mesure seront-ils capables de sauver les meubles et d'avoir des groupes parlementaires conséquents ? Tout ceci reste encore tout à fait inconnu. Alors au-delà de ces quelques considérations, il faut saluer évidemment l'ampleur considérable du renouvellement. C'est évident au niveau du président de la République et au niveau de son entourage immédiat, qui est très largement de son âge, c'est-à-dire une équipe assez jeune à l'Élysée et fort compétente, puisque issue très largement des cabinets ministériels et des milieux de gouvernement. Au niveau du gouvernement, il a tout fait pour être fidèle, à peu près fidèle, aux intentions qu'il avait énoncées précédemment. Il a assuré une espèce d'équilibre politique dans lequel on trouve trois anciens membres du Parti Socialiste, ou je ne sais pas s'il faut dire anciens ou membres du Parti Socialiste, trois hommes de droite, trois ministres issus du Modem, et le reste largement fourni par le recours à la société civile. Alors le recours à la société civile, j'aime pas beaucoup l'expression de la République des meilleurs qu'employait Nicole, parce que ça fait penser à ces oligarchies latino-américaines. C'est pas ça, mais c'est plutôt un retour, je dirais, un retour à ce qu'était la conception originelle, d'ailleurs, de la Ve République. Le général de Gaulle a fait très largement appel à la société civile et à des hauts fonctionnaires ou à des personnes d'une compétence tout à fait reconnue au début de la Ve République. Et c'est un peu un retour aux origines de la Ve République qui est, je trouve, très intéressant. C'est-à-dire un appel à des compétences établies et à des gens qui ont fait leurs preuves dans le domaine qui leur est confié sous d'autres formes que la forme gouvernementale. Et au Parlement, nous allons avoir également un renouvellement alors tout à fait considérable, parce que dans ce Parlement, d'ailleurs pléthorique, de l'avis général de tout le monde, y compris du nouveau président de la République, nous allons avoir un peu plus d'un tiers des députés sortants qui ne se représentent pas, 36%, ce qui est une proportion quand même tout à fait élevée. Ça fait plus de 200 députés qui ne se représentent pas. Pour toutes sortes de raisons, et c'est ça qui est intéressant. Il y a trois catégories de députés qui ne se représentent pas, finalement. Il y a ceux qui ne se représentent pas par lassitude ou par désenchantement, je dirais désenchanté du métier parlementaire. On en entend un certain nombre. Il y a ceux qui ne se représentent pas en raison de la mise en application pour la première fois de la loi de février 2014 qui interdit le cumul entre un mandat parlementaire et une fonction exécutive locale. Et un certain nombre d'entre eux, comme Christian Estrosi, comme d'ailleurs, c'est amusant, Édouard Philippe, avant d'être choisi comme Premier ministre, avaient choisi leur mandat de maire plutôt que leur mandat de député. Mais ceci entraîne également une redistribution des cartes importante. Et puis il y a le renouveau générationnel, qui est évidemment très très important, et qui accompagne l'élection d'un président de 39 ans, qui donne par sa seule existence et par sa seule élection, un sérieux coup de vieux à beaucoup de caciques des partis traditionnels. Voilà, alors nous aurons une alternance qui va être, nous aurons un changement, un renouvellement plutôt, qui va être extrêmement fort et qui va ressembler probablement à ceux qu'a connu le Parlement en 1958, au moment de l'installation des institutions de la Ve République, et un peu aussi en 1968, après la Révolution française, comme dit soi-disant Chou En-Lai, la Chambre introuvable, oui, puisque en 1968, il y avait eu 119 nouveaux élus sur 487 députés. Nous aurons probablement un changement du même ordre de grandeur.
Thierry Pêche.
Écoutez, je trouve que ce gouvernement relève à la fois de l'exploit technique, du machiavélisme stratégique et en même temps d'un signal très fort sur les différents chemins qui se présentent à nous dans ce moment de recomposition politique. Alors, un exploit technique parce que, franchement, arriver à combiner autant de critères dans aussi peu de place, c'était pas gagné. La parité homme-femme, la parité société civile professionnelle de la politique, la parité gauche-droite, le risque était très élevé qu'au terme de cet exercice, cette partie de Rubik's Cube à quatre mains entre un président et un premier ministre de sensibilités différentes, on ait effectivement toutes ces parités, mais pas forcément des gens très compétents là où on les attendait. Or, c'est pas le cas. Je crois que cette partie de Rubik's Cube est réussie. On a un gouvernement qui, de ce point de vue-là, est en ligne avec le grand nombre de promesses que le président de la République avait faites à ce sujet, et c'était pas facile. Alors, l'autre vertu de cet exercice, c'est d'être aussi une stratégie politique pour former une nouvelle majorité. Et Nicole et François l'ont souligné. On le saura bientôt, puisque les législatives approchent, mais l'idée est vraiment de créer la majorité de coalition dans l'exercice de formation du gouvernement. En général, dans les régimes parlementaires chez nos voisins, parce qu'ils ont tous des régimes parlementaires ou presque, la coalition se fait dans le Parlement. Elle se fait au terme des élections législatives. C'est ce qui se passe, par exemple, chez nos amis allemands. On prend quelques semaines, on s'enferme dans une espèce de conclave. Les concitoyens attendent la fumée blanche pour connaître le programme qui sera le programme d'action de la coalition. Nos institutions ne permettent pas vraiment de fonctionner comme ça. Et donc Emmanuel Macron a devancé, d'une certaine manière, ce moment pour créer une hypothèse de coalition à travers son gouvernement. Alors, c'est assez machiavélique parce que ça consiste quand même à dynamiter tout ce qui est autour. Il avait déjà largement pulvérisé la gauche de gouvernement auparavant. Il a littéralement vitrifié ce qui restait des écolos avec la nomination de Nicolas Hulot. Et il s'apprête à être l'ange exterminateur de la droite de gouvernement en créant chez les Républicains une zizanie, une querelle permanente qui ne cessera qu'avec le suffrage et qui va évidemment créer énormément de divisions dans les rangs. Je me permets de préciser que j'ai à ce micro depuis longtemps dit qu'il y avait une crise de la droite aussi profonde que celle de la gauche, mais moins visible. Je me souviens de Jean-Louis Bourlange me répondant que non, pas du tout, la crise de la gauche était beaucoup plus profonde que celle de la droite. Non, on voit aujourd'hui que cette crise, et je crois que d'ailleurs Jean-Louis Bourlange a dit lui-même récemment publiquement, je me permets de le saluer au passage, qu'il y avait finalement peu de points communs entre Alain Juppé et Laurent Wauquiez. Effectivement, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, et sur des questions essentielles. Cette crise de la droite, elle va éclater au grand jour. Et au fond, et c'est mon troisième point, cette crise de la droite, elle montre l'étendue de la recomposition en cours. Au fond, ce qu'a tenté Emmanuel Macron depuis maintenant presque 2 ans, 1 an et demi, presque avant même d'être candidat. C'est, je dirais pas la République des meilleurs, parce que ça sent sa démocratie bourgeoise, ça sent ses pères fondateurs oligarchiques de la démocratie américaine, qui parlaient eux de République des talents, ou de démocratie des talents, mais c'était la même idée. Ou alors ça sent son gouvernement des experts, qui ne fera pas long feu, si c'est ça. Non, ce que Emmanuel Macron a voulu tenter, c'est la réunion des hommes de bonne volonté, sur une idée simple, c'est que dans chacun des deux camps, le centre-droit et le centre-gauche étaient minoritaires et n'avaient plus les moyens d'être hégémoniques sur sa famille qui était en train de se radicaliser. Et réunis ensemble, ils pouvaient former une force, sinon centriste, au moins centrale. La question qui se pose et qui va se poser longtemps désormais, c'est quelle est l'identité de cette force centrale ? Et là, vous avez au moins 3 hypothèses de travail. Une première hypothèse qui est le macronisme existe, il est un. Et dans cette maison commune composée de gens venant d'horizons divers, on va fabriquer une espèce de doctrine commune qui durera. Et ça, c'est ce que dit Emmanuel Macron quand il était candidat. Il disait régulièrement, un nouveau clivage finalement va dessiner le paysage politique français, va structurer le paysage politique français. Il ne passe plus entre la droite et la gauche classiquement. Il passe entre les hommes de progrès et les hommes de conservation. Il passe entre les Européens et les anti-Européens. Il passe entre les patriotes et les nationalistes. Il passe entre le monde d'hier et le monde de demain. Il passe entre la société ouverte et la société fermée. Tout ce vocabulaire qu'il a beaucoup travaillé, cultivé, diffusé dans la vie politique, consiste à dire, au fond, il y a un nouveau clivage qui va organiser le champ politique. Bon. Et il est pas conforme à l'ancien. Alors, ça, c'est une première hypothèse. Mais ça appelle la sécrétion assez rapide d'un contenu doctrinal un peu stabilisé. Mmh. Et ça, c'est pas forcément facile à faire. La deuxième hypothèse, c'est qu'il va y avoir 2 macronismes, finalement. Un macronisme de gauche et un macronisme de droite. Bon. Et qu'au fond, l'idée n'est pas tant d'effacer l'ancien clivage que de le suspendre le temps d'un certain nombre de réformes qui remettront ce pays sur des rails. Bon. Et puis, le moment venu, à ce moment-là, eh bien, l'ancien clivage reviendra déplacé, reconfiguré, mais néanmoins pérenne. C'est l'autre hypothèse, si vous voulez. Ça veut dire que demain, dans En Marche, il y aura des courants, comme il y en a eu dans d'autres partis. Ça veut dire que l'histoire d'En Marche ressemblera plus à celle de l'UDF qu'à celle d'une grande force pérenne. Ça, c'est la deuxième hypothèse. Et il y en a une troisième, qui est un peu la combinaison des deux premières, qui est de dire, au fond, il y a un macronisme politique avec des courants à l'intérieur, effectivement, des gens de gauche, des gens de droite. Bon. Et sur le plan idéologique, le macronisme est un objet qui penche plutôt à gauche. Quand je regarde les idées, le programme d'Emmanuel Macron, et que j'essaye de classer les idées dans 2 colonnes, si vous voulez, il y a bien sûr quelques idées qui restent au milieu du gué. Mais en gros, l'essentiel de ce programme s'alimente à 2 sources, qui sont plutôt des sources de gauche, mais d'une gauche qui, en France, paraît presque être de droite, tellement la gauche française est à gauche, si vous voulez. C'est la social-démocratie et le social-libéralisme. L'idée qu'il se fait du rôle des syndicats dans l'entreprise est une idée, j'allais dire, banalement social-démocrate, partout dans les autres pays d'Europe continentale. L'idée qu'il se fait de la protection sociale et notamment d'une assurance chômage universelle est une idée qui paraîtrait presque banale à un Scandinave. Bon. Et je pourrais continuer, donner d'autres exemples. En réalité, idéologiquement, ce macronisme tel qu'il apparaît dans le programme est un objet qui penche plutôt à gauche, même si politiquement, le macronisme va devoir être une synthèse.
Remarque marginale, la situation économique semble être favorable à bien des égards. Le chômage a commencé de descendre, en tout cas il est au niveau où il était quand François Hollande est arrivé président de la République. La dette trouve preneur, même plus que preneur, puisqu'il y a plus de demandeurs qu'il n'y a d'offres de dettes. La Banque de France et l'INSEE ont tous les deux indiqué que la croissance serait supérieure à ce qui était prévu. Bref, tout ça est évidemment quelque chose qui peut avoir des effets, sinon immédiats sur les élections législatives, mais sur la possibilité pour le nouveau président de faire avancer son programme. Et puis, il y a autre chose que je voudrais dire à propos de cette élection, c'est que Jean-Luc Mélenchon avait la possibilité de créer quelque chose qui aurait été comme un parti communiste sans l'Union soviétique, c'est-à-dire sans le soutien à une dictature totalitaire, et qui aurait été ce que le parti communiste dans sa meilleure dans son meilleur comportement a pu être, c'est-à-dire celui qui donne une voix à ceux qui n'en ont pas, à ceux qui en ont par-dessus la tête de voir des patrons partir avec des retraits de chapeau et des primes extraordinaires alors qu'ils ont foutu leurs entreprises à genoux, qui en ont par-dessus la tête de voir M. Barroso et la dame qui était commissaire européen partir pantoufler dans des entreprises qu'ils étaient censés contrôler, et qui en ont par-dessus la tête de voir l'argent public dépensé n'importe comment, et de voir tous les ans à la télévision que la Cour des comptes s'est encore fâchée pour quelque chose qui finalement va perdurer. Ces gens-là pouvaient être organisés autour de Jean-Luc Mélenchon, et Jean-Luc Mélenchon qui se comporte comme Monsieur Fenouillard, considérait que finalement on lui avait volé 600 000 voix. On cherche d'ailleurs le voleur, et Jean-Luc Mélenchon tient le discours d'Harpagon, ma cassette, rendez-moi ma cassette. Il y a d'ailleurs des plaisanteries les plus variées qui circulent sur les réseaux sociaux, et notamment l'une que j'aime beaucoup, qui dit que Jean-Luc Mélenchon a finalement trouvé le nom des 600 000 personnes qui l'ont empêché d'être au deuxième tour, et que il va s'occuper d'elles individuellement. Ça, c'est quand même, c'est très embêtant, parce que avoir ce type de populisme qui est au fond sans capacité de transformer quelque chose ou d'exprimer quelque chose d'autre que les aboiements auxquels on assiste, c'est quelque chose qui ne facilitera pas la vie démocratique dans les mois et dans les années qui viennent. Nicole Nézotto.
Oui, moi je veux bien remplacer la République des meilleurs par la République des hommes et femmes de bonne volonté.
De progrès.
Quand j'entends, en tout cas, je crois que c'est Bruno Le Maire, dire « Je préfère l'intérêt général à l'intérêt de mon parti », j'appelle ça un meilleur. Parce que c'est effectivement ce que la situation de crise française appelle comme solution possible. Mais je veux bien changer le titre de cette partie. Deuxièmement, j'ai une petite nuance quand même avec François Bujon de l'Étang. Moi, je ne crois pas qu'il faille attendre les législatives pour avoir le renouvellement de la classe politique française et du système parlementaire français. On est déjà dans un renouvellement extraordinaire. C'est plus qu'un renouvellement, c'est un chamboulement total de la vie politique française telle qu'elle était organisée depuis l'après-guerre. On voit des choses que l'on n'avait jamais vues dans la Ve République. Un président sortant qui ne se représente pas, deux partis de pouvoir, la gauche et la droite, qui ont été exclus du premier tour des présidentielles, un président de la République inconnu il y a 2 ans, un nouveau gouvernement qui commence une cohabitation avant élection, ce qui est quand même jamais vu, je crois, ni en France ni dans d'autres pays européens. Donc on a déjà un chamboulement que les législatives vont évidemment accroître, ça je suis complètement d'accord, et en particulier la loi sur le cumul va permettre un renouvellement des visages à l'Assemblée nationale. Mais ce qui est profondément déjà visible, c'est les déchirements internes de tous ces partis traditionnels. On n'a pas parlé du Front National, mais entre la stratégie de Madame Le Pen, la stratégie de Marion Maréchal Le Pen, même si elle se met en retrait pour l'instant de la vie politique, la stratégie de Monsieur Philippot et la stratégie du père, qui va présenter des électeurs contre le Front National, on voit là aussi, peut-être avec plaisir, une espèce d'éclatement de cette extrême droite, en tout cas telle qu'elle a été organisée pour les élections. Et Philippe l'a dit, l'extrême gauche de Jean-Luc Mélenchon est peut-être en train elle-même de s'auto-affaiblir par l'excès rhétorique de son président. Et donc, moi, je crois qu'on est vraiment dans un chamboulement total. Et deuxième point, si je puisse, ce qui est intéressant aussi, c'est de s'interroger sur la façon dont le président de la République donc, va exercer son pouvoir dans cette nouvelle donne politique renouvelée. Et là, ce que l'on voit quand même, c'est qu'il est dans une stratégie de restauration de l'autorité de l'État, ça il l'a dit, mais il est aussi dans une stratégie de restauration du pouvoir personnel du chef de l'État. Et on voit quand même, il a intégré immédiatement donc la fonction présidentielle, il ne sera pas un président normal, il veut être un président exceptionnel, pourquoi pas. Il a annoncé vouloir nommer, changer à peu près 200 personnes dans la haute fonction publique française, ce qui ne se faisait traditionnellement, mais pas comme un principe de gouvernement. Donc, à l'américaine, il va changer un certain nombre de hauts fonctionnaires pour être sûr que l'administration ne bloque pas les réformes que veut le politique, que veut le président de la République. Avec son gouvernement de coalition, il sera parfois amené à être un super Premier ministre, parce que c'est lui qui tranchera in fine les conflits qu'il peut y avoir dans ce gouvernement entre des gens qui ont effectivement des positions très différentes. J'ai cité l'exemple tout à l'heure sur le nucléaire, sur l'avenir du nucléaire civil, entre le ministre, le Premier ministre et le ministre de l'économie, ça ne sera pas facile. Donc on voit très bien qu'on va vers un régime très présidentiel, avec une autorité très forte du chef de l'État, qui n'est corrigée que par une chose, je crois, qui est, en tout cas dans son programme, il avait avancé l'idée qu'il gouvernerait de façon collégiale et notamment qu'il y avait cette obligation qu'il se ferait. J'espère qu'il la tiendra parce que je crois que c'est important tous les ans devant le Congrès de rendre compte de sa politique nationale et de sa politique européenne. Et ça, je crois que c'est important.
Thierry Pêche.
Oui, il ne faudrait pas donner le sentiment que c'est la fin de l'histoire et qu'autour de En Marche, il n'y a plus qu'une des zones désertiques où errent quelques peuplades nomades à la recherche de nourriture et d'eau. Bon, non, ce n'est pas comme ça, naturellement. Le reste du paysage va se recomposer aussi. On voit bien les manœuvres, on ne l'a pas évoqué, de Marine Le Pen depuis quelques jours, qui dit bon, elle va abandonner l'idée de sortie de l'euro, qui lui va coûter très cher. Elle va réarmer un discours populiste d'extrême droite et se repositionner. Et à gauche, on va avoir des mouvements aussi. Sur Jean-Luc Mélenchon, on peut dire tout ce que vous dites, Philippe, et vous n'avez pas tort. Il reste que Jean-Luc Mélenchon a capté des segments de la société qui sont toujours là. En particulier une jeunesse déclassée et diplômée qui a suivi Jean-Luc Mélenchon avec enthousiasme, avec colère parfois. Et qu'est-ce qu'on va proposer à ces gens-là demain ? Le problème reste entier. Et donc, une gauche radicale peut aussi se recomposer autour de cette partie de la société qui n'était pas l'électorat premier de Jean-Luc Mélenchon. Et ça, c'est un des événements de la campagne présidentielle. Donc, on est dans un moment où on ne voit que l'exécutif en formation, que les législatives. Demain, la société française va continuer à s'exprimer, la classe politique va se restructurer. C'est ça qui est intéressant c'est ça qu'on va devoir essayer d'éclairer, de comprendre. N'imaginons pas que demain il n'y aura plus de gauche, il n'y aura plus de droite. Je pense que ça n'arrivera pas. Simplement, ces acteurs vont devoir, et ça c'est bien, il était temps, j'ai envie de dire, ils vont devoir se repositionner et se renouveler eux-mêmes.
Je pense qu'il faut remercier Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron d'avoir ramené à la politique une classe d'âge qui s'en désintéressait totalement, voire quelquefois qui s'en désintéressait agressivement. Après, la question qui se pose à propos de Jean-Luc Mélenchon, c'est de savoir s'il a eu des électeurs ou s'il a eu un public. C'est-à-dire s'il rassemble des gens pour faire en sorte que leur frustration, leur colère, leurs espoirs s'imposent dans le débat politique et précisément que tout ce qu'ils ont à dire soit dit à Emmanuel Macron et à cette majorité qu'il recompose autour de lui, ou s'ils sont là pour faire une espèce de pom-pom girls et de pom-pom boys pour Jean-Luc Mélenchon, qui lui-même va faire son numéro sur les plateaux de télévision et sur les plateaux de radio. C'est ça pour moi la question, et je crains malheureusement qu'on soit plus dans la deuxième hypothèse que
la première. Il se peut, Philippe, qu'un public ait envie de devenir un électorat.
C'est le contraire, il a été un électorat, il a besoin de le devenir,
et mettre un homme politique en demeure de lui faire une offre cohérente.
J'espère que cet électorat ne sera pas dégradé en public. François Bugeon de l'Étang.
Moi, je vais dans le même sens que Thierry. Je considère que on est vraiment dans une phase de recomposition majeure du paysage politique, mais qui est inachevée, qui est en train de se faire, Nicole. N'anticipons pas. Je suis d'accord avec vous pour dire que des étapes considérables ont été franchies et qu'il y a déjà un renouvellement considérable qui est fait, mais on voit bien à quel point c'est encore inachevé, puisqu'on ne sait pas quelle sera la majorité sur laquelle va s'appuyer M. Macron pour faire cette coalition des gens de bonne volonté ou des gens de progrès. intérêts pour pouvoir réformer le pays, mais on ne voit pas non plus ce que sera l'opposition. Et c'est une des autres grandes inconnues, je trouve, du personnage politique en train de se reconstituer sous nos yeux. On ne sait pas, par exemple, comment Mélenchon et ses électeurs ou admirateurs vont se combiner avec d'autres éléments qui peuvent se sentir orphelins à gauche. Il peut y avoir une recomposition de ce côté-là. Et du côté du Front National, on ne voit pas très bien non plus ce qui va se faire dès lors qu'il y a là aussi des forces centrifuges qui s'expriment. Donc on est quand même au milieu d'un paysage qui est, je crois, totalement inachevé. Et c'est normal, parce que pour faire une transformation aussi profonde que celle qui est en train de s'opérer, il faut un président, il faut une vision, il faut une majorité pour l'exécuter. C'est intéressant parce que on revisite un certain nombre d'étapes de l'histoire de la Ve République dans l'histoire qui est en train de se faire aujourd'hui. Je parlais par exemple du recours à la société civile du même type que celui qui s'est fait en 1958. On ne peut pas ne pas penser au président Giscard d'Estaing et à son intuition que la France a envie d'être gouvernée au centre. Il y a quelque chose qui évoque tout cela là-dedans. Donc nous avons un aboutissement finalement d'une évolution de la Ve République qui se fait en écartant les partis traditionnels et en constituant à la fois une nouvelle majorité qui se veut réformatrice et qui est un peu ce qui aurait pu être tenté, autre étape de la Ve République manquée en 2002 après la victoire de Monsieur Chirac avec 82% de l'électorat. Une occasion manquée, pas d'union nationale.
Je ne vous Monsieur le fais pas Macron, dire, cher François.
Comment ?
Je ne vous
mais
le fais
non,
pas
mais
dire.
Vous n'aviez pas besoin de me le faire dire. Je le dis depuis 2002 en réalité. Et voilà, là, nous avons tout à fait quelque chose d'autre, mais qui est en cours, qui est inachevé, dont on ne voit pas du tout ce que sera l'aboutissement.
Je vous remercie. Intéressons-nous maintenant à la relation franco-allemande, puisque la visite à la chancelière fédérale aura été le premier déplacement à l'étranger d'Emmanuel Macron, déplacement qui avait pour objectif de raffermir la coopération entre Paris et Berlin sur la base du volontarisme et du pragmatisme. Le président de la République a appelé à la mise en place d'une nouvelle dynamique européenne face à la montée des populismes et au risque de délitement de l'Union. Il a plaidé pour l'instauration d'un budget de la zone euro confié à un ministre des Finances ad hoc pour consolider le mécanisme européen de stabilité et soutenir les États membres en difficulté. Il s'est prononcé pour une réforme du traité de Lisbonne, mais il a rejeté l'idée d'une mutualisation rétroactive des dettes qui aboutirait à une politique de déresponsabilisation. Emmanuel Macron a affirmé qu'il conduirait en France des réformes profondes et nécessaires, non pas parce que l'Europe le demande, mais parce que la France en a besoin. Angela Merkel s'est dite ouverte à la possibilité d'amender les traités européens si cela s'avère utile, et à un renforcement de la zone euro qui ne passerait pas uniquement par la conclusion d'accords intergouvernementaux. Elle a admis des divergences de conception avec son homologue français, mais citant Hermann Hesse, elle s'est félicitée du charme qui accompagne la nouveauté, non sans ajouter immédiatement que ce charme ne durera que si des résultats sont à la clé. Les deux dirigeants ont donné leur aval à une relance de la coopération bilatérale. Un conseil des ministres franco-allemands aura lieu en juillet afin d'élaborer une feuille de route à moyen terme pour la construction de l'Union européenne. Cette rencontre mettra également à son ordre du jour la question des travailleurs détachés, la crise migratoire et l'équilibre des échanges économiques. Emmanuel Macron a aussi annoncé la réouverture des classes bilingues à partir de septembre prochain. La rencontre entre notre président de la République et la chancelière s'est tenue au lendemain d'un scrutin régional en Rhénanie du Nord-Westphalie. Le parti de la chancelière, la CDU, a remporté l'élection alors que le SPD a réalisé son pire score depuis 1947 dans ce Land, bastion historique du Parti social-démocrate et fief électoral de son nouveau président, Martin Schulz. Cette troisième victoire consécutive de la CDU à une élection régionale place Angela Merkel en position de force avant les élections législatives de septembre prochain, où elle briguera un quatrième mandat de chancelière. Sur cette question, François Bujon de l'Étang.
Alors, M. Macron s'est rendu dans ses premières 24 heures à Berlin pour rencontrer la chancelière. Il y a trois choses qu'il faut souligner ici. Il y a le rite, il y a l'agenda et il y a l'espoir, finalement. Le rite, c'est devenu effectivement maintenant un rite de la Ve République, arrivant à maturité, que de voir le président de la République fraîchement élu se rendre en Allemagne pour symboliser l'importance du tandem franco-allemand dans la vie politique française. Tous l'ont fait avant lui. On peut ironiser sur le fait que cette fois-ci, l'avion de M. Macron n'a pas été frappé par la foudre en quittant, comme celui de son prédécesseur, en quittant le sol français. Tout s'est très bien passé. Je connais même des esprits chagrins. J'en ai entendu il n'y a pas longtemps qui déploraient le fait qu'au fond, il n'ait pas rompu avec ce rite en disant justement, il y a tant d'électeurs qui ont fait part de leur agacement à l'égard de l'Europe ou de la domination allemande, que peut-être aurait-il mieux valu se rendre à Gao avant d'aller à Berlin. Laissons les esprits chagrins de côté, ne nous y intéressons pas, mais voyons que le respect du rite marque la constance et la continuité. Donc ça c'est une chose. La seconde, c'est l'agenda franco-allemand. Il est difficile parce que nous ne sommes pas d'accord sur tout avec les Allemands, et c'est ce qui fait toujours l'intérêt de la vie en couple. Les Allemands, d'ailleurs, comme vous le savez, récusent ce mot. Ils n'aiment pas qu'on parle du couple franco-allemand. Ce sont les Français qui utilisent cette expression. Les Allemands utilisent plutôt celle de tandem ou celle de duo. Mais il y a quand même des choses très très positives dans la rencontre qui vient d'avoir lieu entre M. Macron et une Mme Merkel, vous venez de le dire, en santé florissante sur le plan politique. D'abord parce que M. Macron fait preuve des intentions jugées les meilleures par Madame Merkel. Il a décidé qu'il voulait rétablir les comptes publics français, qu'il voulait réformer le marché du travail. Ce sont les réformes sur lesquelles les Allemands nous attendent, et il est décidé à les faire. En contrepartie, il avance déjà des demandes. Il souhaite que il y ait un ministre fédéral, si j'ose dire, bien que le mot soit tabou, qu'il y ait un ministre du budget au sein de l'Union européenne, doté effectivement d'un budget, et un budget communautaire qui permette de faire des redistributions des excédents budgétaires de certains, nous ne nommerons personne, au bénéfice de pays en difficulté. Les Allemands ne s'y trompent pas, ils n'aiment pas, M. Schäuble ne n'aime pas du tout cette idée française, et nous voyons là l'amorce d'une petite divergence qui me fait penser que les choses ne seront pas aussi simples qu'on pourrait le penser. Par contre, sur le plan de la consolidation de la zone euro, de la nécessité de terminer l'union bancaire, sur la question des travailleurs détachés, sur la question du Buy European Act, c'est-à-dire de l'ouverture des marchés publics un peu à l'américaine, il y a un accord franco-allemand qui se dessine. Enfin, l'espoir, au-delà de l'agenda. L'espoir est très très net. Je vois que des commentateurs américains, d'ailleurs, ne s'y trompent pas. Roger Cohen, de façon très intéressante, dans le New York Times, fait une column, c'est-à-dire une chronique sur ce thème, avec l'arrivée de Monsieur Macron, qui a clairement un agenda européen et clairement une volonté de ressusciter le couple franco-allemand, et une Madame Merkel qui donne l'impression d'être à la veille de sa propre réélection. Il y a une chance, un espoir à saisir pour l'Europe, dans un environnement très négatif, avec Poutine d'un côté, Trump de l'autre, et les Anglais et leur esprit de boutiquier.
Thierry Pech. Écoutez, on ne pourra pas dire que Emmanuel Macron n'a pas fait tous les efforts nécessaires pour relancer le dialogue franco-allemand, qu'on l'appelle duo, tandem, couple, peu importe. En tout cas, il a été très clair, il a dit « je ne suis pas face à l'Allemagne, je suis à côté de l'Allemagne ». Je me souviens de cette expression qui était particulièrement parlante. Il a fait sonner l'hymne européen le soir de son élection. Vraiment, et il a surtout été très clair sur la stratégie qu'il voulait conduire, c'est-à-dire redonner confiance à l'Allemagne en commençant par des réformes en France, pour ensuite demander des pas aux Allemands. Et le calendrier étant bien fait, Madame Merkel sera ou ne sera pas réélue en septembre, et Emmanuel Macron, d'ici là, aura eu le temps, peut-être, de lancer les ordonnances de réforme du droit du travail, qu'on appelle parfois improprement réforme du marché du travail. Voilà la feuille de route et le tableau. Mais évidemment, François, qui a été un grand diplomate, a le vocabulaire des diplomates. Il dit une petite différence en évoquant les questions, les divergences franco-allemandes. Ce ne sont pas des petites différences, ce sont des différences vraiment de stratégie économique des deux pays. L'Allemagne a développé, je l'ai souvent dit à ses micros, une stratégie mercantiliste en Europe. Voilà, elle a développé un excédent budgétaire que tous les pays occidentaux aujourd'hui lui reprochent à bon droit 290 milliards d'euros. Enfin, je veux dire, c'est 8%, je crois, du PIB allemand. C'est tout ça ne va pas. Voilà, tout ça n'est pas acceptable. Ça n'est pas une stratégie, ça n'est pas une attitude coopérative avec les voisins européens. Et malheureusement, Monsieur Schäuble ne peut pas concentrer sur, ne peut pas apporter tout seul le chapeau de cette stratégie et de ses idées. Ce sont des idées qui sont très partagées en Allemagne et dans les élites allemandes. Donc, le rendez-vous de l'automne ou de la Noël, on verra, sera un rendez-vous difficile, y compris pour les Allemands, parce que maintenant, à ce moment-là, ce sera à eux de faire des pas en direction d'une Europe de l'investissement, d'une Europe de la solidarité, d'une Europe du budget européen. Toutes ces choses dont, au fond, ils ne veulent pas entendre parler depuis des années. Même s'ils ont fait des pas, même s'ils ont fait quelques concessions, ils les ont faites trop lentement, trop timidement, trop en arrière de la main. Et qui ne se trompe pas sur ce qu'est le macronisme, je crois, de façon très claire, très explicite sur ces sujets, c'est l'attente d'une Europe de l'investissement. Et malheureusement, l'Allemagne est un pays vieillissant, un pays d'épargnants, n'est pas un pays qui pense investissement. Et il va falloir que ce pays fasse des concessions. Henrik Enderlein, parce qu'on va, j'anticipe déjà les courriers d'auditeurs que nous allons recevoir, cher Philippe, qui vont dire « Ah, Thierry Pech fait son procès habituel anti-allemand ». Pas du tout. Moi, j'aime beaucoup les Allemands, j'aime beaucoup l'Allemagne. Et j'aimerais même que l'Allemagne revienne davantage dans le jeu géopolitique. Vous voyez, c'est dire combien je fais confiance. Mais des Allemands eux-mêmes disent ce que je dis. Henrik Enderlein, économiste, qui avait signé un rapport fort intéressant avec Jean Pisani-Ferry il y a quelques années, a dit exactement ce que je viens de dire. C'est maintenant, c'est à l'Allemagne de faire quelques pas en direction de la France.
Nicole Nézotto.
Un mot d'abord sur le rite du voyage en Allemagne, et inversement d'ailleurs pour les nouveaux chanceliers ou chancelières, le rite du voyage à Paris. Simplement pour dire que le couple franco-allemand en 2017 a pris une importance qu'il avait perdue dans les décennies précédentes à cause de ce qui s'est passé l'année dernière. Il y a eu deux grandes ruptures dans le couple franco-allemand depuis le couple de Gaulle-Adenauer. Ça a été en 90 l'unité allemande, bien évidemment, puisque l'Allemagne devenait un pays égal à la France et non plus un pays occupé. Et ça a profondément bouleversé les Français qui ont, pour certains, encore du mal à s'en remettre. Et la deuxième grande révolution du couple franco-allemand, c'est l'année dernière, le Brexit et l'élection de Donald Trump. Parce que avec le départ des Britanniques et les incertitudes sur le gouvernement américain, ce sont les continentaux, comme disait le général de Gaulle, l'Europe continentale, et les deux plus grands d'Europe, la France et l'Allemagne, qui reprennent une importance absolument fondamentale. On disait beaucoup que le couple franco-allemand était devenu insuffisant dans la grande Europe des 27. Avec le départ des Britanniques, c'est devenu faux. Le couple franco-allemand est non seulement nécessaire, mais peut redevenir suffisant pour relancer l'Europe des 27. Donc ce rite était beaucoup plus qu'un rite. Je crois que c'est aussi un acte politique fort, parce que ce couple n'est plus ce qu'il a été. Deuxièmement, maintenant, sur la rencontre entre M. Macron et Mme Merkel, le MMS, comme dit le journal Bild, MMM, oui, c'est un peu la conjugaison des contraires. Mais ça, je dois dire que c'est le propre du couple franco-allemand, c'est d'essayer de trouver un consensus entre des contraires. Mais là, effectivement, on a vu deux chefs d'État. Mme Merkel a une solide expérience politique, elle est en troisième mandat, elle va peut-être faire son quatrième mandat. Elle a déjà connu 4 présidents de la République française, c'est un peu comme la reine d'Angleterre qui a connu 20 premiers ministres britanniques. Elle est dans un pays en plein essor, en pleine bonne conscience économique, leader de l'Europe. Lui est dans un pays en crise, endetté, qui reprend un peu de poil de la bête, mais quand même un pays déprimé, comme le montrent tous les sondages. Et leur programme, comme l'a dit Thierry, est totalement différent. Madame Merkel est sur une position simple, qui est de dire que les règles européennes sont parfaites. Elles ont permis la prospérité allemande, et donc ce ne sont pas les règles européennes qu'il faut changer, c'est la politique, la structure des autres pays. Donc, on peut penser, a priori, que ce couple aura du mal à trouver un accord, même si la nouveauté fait que, et le charme, comme me dit Mme Merkel, fait que je crois que la bonne volonté des deux côtés, en particulier du point de vue allemand, sera là pour essayer de faire avancer les choses. Mais il y a une vraie différence entre la France et l'Allemagne, et il y a surtout, je crois, et j'en ai peur, de la part du président de la République, une très grande difficulté à conjuguer un discours qui plaise à l'Allemagne et un discours qui satisfasse les Français. Et moi, quand je vois que à Berlin, les discours français ont porté uniquement sur la réforme de la zone euro, sur le budget de la zone euro, sur le Parlement de la zone euro, sur le Buy European Act, c'est-à-dire un droit d'accès privilégié aux entreprises qui font l'essentiel de leurs bénéfices en euros, au détriment du discours sur l'Europe sociale, c'est devenu presque un gros mot, mais je crois qu'il y a vraiment un problème si le discours européen de la France, du nouveau président de la République, est un discours qui reste un discours technocratique, un discours sur la réforme économique, sur le fonctionnement de la zone euro. Comme disait Jacques Delors, on ne tombe pas amoureux du marché unique. Eh bien, pareil, les Français ne vont pas retomber amoureux du budget de la zone euro. Je crois que les Français doivent articuler un discours sur la réduction des inégalités de richesse en Europe, sur l'Europe redistributrice, sur l'Europe qui peut avoir une fonction pour alléger, pour réguler les effets négatifs de la mondialisation, un discours que détesteront les Allemands, Et donc il faut concilier les deux, c'est un pari difficile, mais je crois qu'il faut aller un peu au clash avec l'Allemagne, pas seulement sur la politique d'investissement, mais sur le rôle de tampon que peut jouer l'Europe dans les chocs de la mondialisation.
Petite question peut-être anecdotique sur le rythme, mais... C'est d'abord le Mali qui avait choisi le président de la République. Oui. On nous avait annoncé que lundi, oui, juste après absolument son intronisation, son sacre, son élévation, son ascension, la passation du pouvoir, il allait aller au Mali. Est-ce que c'est parce que, comme on l'a raconté, que le voyage était difficile à organiser, j'ai un peu de mal à le croire, ou est-ce que c'est parce que, de l'intérieur de ses équipes, on lui a fait comprendre que ne pas sacrifier au rite franco-allemand aurait été considéré, mal considéré, en tout cas de l'autre côté du Rhin. Thierry Pech.
Non, je voulais ouvrir la discussion, enfin elle est largement ouverte, il est trop tard pour l'ouvrir de certaine manière, mais avec Nicole sur la question de l'Europe sociale contre cette Europe du budget européen, de la correction des dysfonctionnements de la zone euro. Je suis désolé, mais l'Europe de la réduction des inégalités, elle passe par la correction des dysfonctionnements de l'eurozone, elle passe par une Europe de l'investissement, elle passe par un budget européen. C'est-à-dire que l'Europe sociale, elle est dans tout ça. Alors après, vous pouvez dire, Nicole, c'est pas comme ça qu'il faut le dire. Ça fait pas un récit. Je suis bien d'accord avec ça. Hein. Mais arrêtons de laisser penser, notamment à la vieille gauche partout en Europe, que un jour l'Europe assurera la protection sociale, les retraites et l'éducation. C'est pas ça. Chacun des pays de l'Union européenne continuera à animer son contrat social. Et c'est une demande forte des populations européennes. Mais pour pouvoir animer ce contrat social, on a besoin d'un contexte européen qui fonctionne différemment. On a besoin d'un contexte européen qui laisse respirer ses choix sociaux, justement. Et ça, pour le moment, on ne l'a pas. Et on ne l'a pas notamment dans la partie sud de l'eurozone.
Nicole, les autos.
Juste un mot. Moi, je ne dis pas que l'Europe doit faire le social que ne font pas les nations. Pas du tout. Je dis simplement, mais par c'est exemple, quoi, il y a des fonds structurels en Europe qui sont définis sur une base géographique. Les régions riches donnent de l'argent aux régions pauvres. Moi, je pense que dans la mondialisation, il faudrait penser des fonds structurels sur une base socio-professionnelle, c'est-à-dire des fonds qui iront aux régions ou aux catégories de population qui sont victimes de désindustrialisation, de délocalisation. Il ne s'agit pas de faire la sécurité sociale, le droit du chômage. Il s'agit d'utiliser une partie du budget européen, en augmentant d'ailleurs le budget européen à 1,2% du PIB et non pas 1%, pour avoir une Europe qui redistribue et donc qui allège, qui redistribue de l'argent aux catégories socio-professionnelles qui sont victimes des chocs de la mondialisation.
Alors, il y a un moyen beaucoup plus simple de faire ce que vous dites, c'est de faire une assurance chômage européenne.
Plus dur.
Certains le proposent. Le projet est assez avancé d'ailleurs. Hein. Il faudrait des décisions politiques, mais c'est pas du tout un plan sur la comète.
Nous reprendrons ce débat à une prochaine occasion, puisque l'heure a sonné de notre dernière séquence, la séquence des brèves, que je vais ouvrir en me réjouissant de la reparution aux éditions Grasset dans la collection des Cahiers Rouges, d'un livre de Privat d'Anglemont, qui est un livre qui date du milieu du 19e siècle. Privat d'Anglemont passant, selon Poulet-Malassy, qui était l'éditeur de Baudelaire, pour avoir écrit quelques-uns des vers de Baudelaire. Privat d'Anglemont est une espèce d'un vrai bohème. Alors, si on veut savoir ce que c'est que la bohème, comme Murger, c'est un vrai bohème qui se promène dans Paris et qui en note tout le pittoresque. Et Dieu sait que le pittoresque de cette ville, dont Charles Quint disait que c'est la seule qui fut aussi un monde, le pittoresque est abondant. Il s'intéresse absolument à toutes les populations, puisqu'il y a des populations qui, à l'époque, peuplent cette ville, qui n'est pas encore la ville d'après Haussmann, c'est-à-dire qui est encore la moitié de sa surface, avec une plume qui est celle d'un homme qui cherche à, j'allais dire, jouir de ce qu'il voit plutôt que à philosopher ou à sociologiser ou à moraliser sur ce qu'il peut voir. C'est une lecture que tous les amoureux de Paris apprécient et que tous ceux qui souhaitent mieux connaître Paris apprécieront. François Bujon de l'Étang.
Le prix de la Revue des Deux Mondes est décerné chaque année à un essai en langue française publié au cours des derniers 12 mois. Il vient d'être attribué au livre de Patrice Guénéfet intitulé « Napoléon et De Gaulle, deux héros français » publié à la librairie Perrin. Nous en avons déjà dit un mot il y a quelque temps, mais je me réjouis pour ma part que ce prix lui ait été attribué, car le livre est bien meilleur que son titre, allais-je dire. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout un livre portant sur deux portraits mis en regard l'un de l'autre, par exemple. C'est une espèce de regard transversal porté sur l'histoire de France à travers le destin de ces deux personnages et de quelques autres, d'ailleurs, parce que Louis XIV trouve également une place importante dans ce livre. C'est un livre largement d'humeur, tout en étant un livre d'historien. C'est un livre fort bien écrit, d'une plume pleine d'alacrité, et qui se lit avec beaucoup de plaisir.
Nicole Nisotto.
Oui, moi j'ai en général beaucoup de retard sur l'actualité littéraire, mais là je suis heureuse de combler ce retard et de recommander vivement le dernier roman de Laurent Godet, qui est paru chez Actes Sud en 2016, et qui s'appelle « Écoutez nos défaites ». C'est un roman, mais c'est aussi une réflexion absolument magistrale, à la fois philosophique et littéraire, sur l'atrocité, l'inutilité, la barbarie des guerres, en tout temps, en tout lieu, et le roman mélange quatre grandes guerres. Hannibal contre Rome, la guerre de sécession aux États-Unis, la guerre italo-éthiopienne avec Haïlé Selassie, et puis la guerre aujourd'hui d'un membre des services secrets français contre Daesh. Et c'est absolument fabuleux, c'est un vrai roman, il y a une histoire d'amour avec une archéologue irakienne, et c'est une vraie réflexion sur qu'est-ce que c'est que la victoire, qu'est-ce que c'est que l'échec, je recommande absolument.
Nous sommes des amateurs de Laurent Godet, mais nous allons donc lire cet ouvrage, Thierry Pêche.
Alors moi qui ai beaucoup plus de retard sur l'actualité littéraire que Nicole, je voudrais inviter nos auditeurs à lire Rabelais plus souvent, et notamment l'éloge des dettes en ces temps de dettes grecques. Rabelais faisait dire à Panurge que s'il n'y avait plus de dettes et de créances entre les hommes, il n'aurait plus d'intérêt à la survie des uns des autres. J'aurais aimé vous lire dans la langue de Rabelais quelques lignes, mais il va être trop tard, donc je réserve ce plaisir pour plus tard, ou alors je le fais.
Non,
quand
je
même.
Vous donne une petite minute.
Ah, c'est gentil. Doivez toujours à quelqu'un. Paris celui sera continuellement Dieu prier, vous donner bonne, longue et heureuse vie, craignant sa dette perdre. Toujours bien de vous dira en toute compagnie, toujours nouveau créditeur vous acquestera, afin que par eux vous fassiez versure et de terre d'autrui remplissiez son fossé.
C'est pour Monsieur Charles Baudelaire.
Voilà, absolument.
Je vous remercie, c'était L'Esprit Public, une émission de Philippe Meyer, réalisée par Luc Jean Reynaud, préparée avec Augustin Bernard Goudex et Mathilde Cadreau, avec aujourd'hui la technique Pascal Bénard. Donc il faut que je vous rappelle que pour notre dernière émission en public et en direct du dimanche 25 juin, vous pouvez déjà vous inscrire sur www.maisondelaradiosansséparation.fr, et puis que vous avez maintenant rendez-vous avec Alain Crugère. Son émission s'intitule « Mots de français sur le bout de la langue arabe » et il reçoit Jean Pruvost, qui est professeur émérite de lexicologie et d'histoire de la langue française, avec qui il évoque les apports de la langue arabe à notre gastronomie, la pastèque, les artichauts, l'aubergine, sans oublier les sorbets et la limonade. Nous vous souhaitons donc bonne santé, bon appétit et toute cette sorte de choses, mais aussi rendez-vous la semaine prochaine à la même heure sur cette même chaîne pour une nouvelle édition de L'Esprit Public.